l'antenne de France Inter perturbée, vous le savez, par un mouvement de grève lié au plan de départ volontaire de Radio France. Aujourd'hui, au 18-20, on garde le fil de l'actualité. On est parti avec le journal d'Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce lundi 2 décembre commence avec le lourd bilan des intempéries.
Le sud-est de la France, donc paie un lourd tribut après des intempéries du week-end précédent. 6 morts, une disparue et des dégâts matériels considérables. Autre bilan très lourd, les 13 soldats tués en mission au Mali la semaine dernière. Hommage national aujourd'hui dans la cour des Invalides à Paris. L'Europe attendue comme un acteur crucial pour limiter le réchauffement climatique à la COP25. La conférence climat de l'ONU a débuté à Madrid.
Et à 18h15 dans Un jour dans le monde, ce soir, nous aussi, c'est l'ouverture de la COP qui nous intéresse. C'est l'Afrique surtout que l'on regarde à plusieurs titres. Son rapport au réchauffement climatique, son énergie, son développement et en quoi ses forêts peuvent jouer un rôle crucial. Le bruit du monde est en Lituanie, on va parler consigne, tiens. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Comment ne pas parler de cette semaine sociale qui s'annonce, les tentatives de désamorçage du gouvernement, les colères qui s'amoncellent et vous qui vous préparez parce que il semble acquis au moins que cette journée de jeudi sera une journée très suivie. Nous avons choisi de confronter à vos questions ceux qui sont dans la rue de plein pied ou un peu moins, CGT et CFDT. Vos questions, c'est au 01 45 24 7000.
France Inter.
Après la tempête, donc le deuil et une victime supplémentaire dans le sud-est de la France.
6 morts, on compte désormais 6 morts et une femme disparue après la tempête qui s'est abattue ce week-end dans le Var et les Alpes de Haute-Provence. Dernière victime en date, une femme de 35 ans. Son corps a été retrouvé dans un cours d'eau, sa voiture a été emportée par le courant. Un bilan très lourd pour la région, frappée pour la deuxième fois en quelques jours par les éléments. À Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes, pas de victimes mais des dégâts très lourds et des habitants épuisés par la répétition de ces catastrophes. C'est le reportage de Jérôme Jadot.
Donc nous on habite là, donc en une semaine on est 2 fois inondé.
Une semaine après, même équipement de rigueur, raclette et balai.
Donc c'est juste horrible à vivre, surtout que on l'a vécu aussi en 2015. On avait tout nettoyé, heureusement qu'on a les amis qui viennent. Et ça, donc c'est tout à refaire. En plus on avait un peu trop anticipé, on avait déjà la machine à laver, la vaisselle et la linge, on avait réussi à se faire livrer. C'est dur à traverser.
Le contre-coup derrière.
En plus des amis qui viennent donner un coup de main, des agents de la ville sillonnent le quartier.
On fait un petit peu le tour des sinistrés et on évalue les besoins en pompage, en évacuation des déchets, pour aider au mieux la population.
Mais ça ne suffit pas toujours. Certains habitants songent désormais à quitter le quartier. Gros dilemme pour Jacques et Marie, des retraités.
Pour nous, c'est un peu catastrophique parce que maintenant, on va être classé en zone inondation. Si rien n'est fait, c'est invendable. Enfin, je ne sais pas comment on vit. Tout ce qu'on a fait dans une vie, bah, c'est un peu fichu.
J'espère que ça va donner conscience aux gens que le climat change et qu'il faut vraiment que chacun fasse quelque chose. C'est ça le positif.
Marité espère aussi que cet épisode relancera le vieux projet de bassin de rétention en vue d'atténuer les effets de ces intempéries à répétition.
Jérôme Jadot dans les Alpes-Maritimes. Par ailleurs, la préfecture des Alpes de Haute-Provence nous apprend ce soir que suite aux intempéries, l'éboulement d'un rocher a détruit 3 maisons entre Manosque et Sisteron et fait 2 blessés. La nature se déchaîne, mais le Premier ministre reste optimiste. Il veut croire que la lutte contre le changement climatique est un combat gagnable. Édouard Philippe l'a dit en ouverture de la COP25, la conférence climat de l'ONU, qui se tient à Madrid, en Espagne. Un concert de bonne volonté, de belles promesses, diront les détracteurs. Et les regards se tourne en particulier cette année sur l'Europe, acteur important du combat contre le réchauffement de la planète, et sur la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est engagée pour un Green Deal européen. Sandy Dauphin est à la COP25 à Madrid pour France Inter.
La COP25 est le premier déplacement à l'étranger pour la nouvelle présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen veut faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone en 2050.
Le pacte vert est la nouvelle stratégie de croissance de l'Europe. Il réduira les émissions, il créera des emplois et il va améliorer notre qualité de vie.
Des discussions sont en cours à Bruxelles pour conclure ce pacte vert. Il faut convaincre et accompagner les États encore très dépendants au charbon, Hongrie, République tchèque, Estonie et surtout Pologne. À la COP25, le Premier ministre français Édouard Philippe soutient la stratégie de la nouvelle patronne de l'Europe.
L'Europe, c'est à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Ça n'est donc pas le plus responsable aujourd'hui, mais l'Europe, c'est le continent qui veut être en avance et qui veut entraîner les autres dans une ambition collective.
Les 28 parviendront-ils à se mettre d'accord sur un pacte vert pour le climat ? Verdict la semaine prochaine lors du prochain sommet européen.
Et on y reviendra dans un jour dans le monde, tiens, puisqu'on parlera nous spécifiquement d'Afrique. L'hommage de la France, Amélie, à ses soldats morts au combat.
13 cercueils alignés dans la cour des Invalides, drapés des couleurs de la France. La marche funèbre interminable dans le froid parisien pour accompagner les 13 dépouilles. Ils sont morts pour nous tous, a salué le président Macron. Cyril Gradiani, bonsoir.
Bonsoir.
Vous revenez de cette cérémonie, un hommage au sacrifice de ces hommes et un discours pour défendre la présence française au Sahel.
Et il a fallu plus de 10 minutes longues, pesantes, pour que tous les cercueils soient déposés dans cette cour des Invalides. 13 cercueils, 7 en première ligne, les 6 autres derrière, tous ornés du drapeau tricolore, des képis sur le dessus pour les uns, des tartes pour les troupes de montagne. 13 cercueils devant lesquels Emmanuel Macron a tenu à s'incliner après avoir détaillé cette nuit où ces hommes ont perdu la vie.
Nos 13 soldats sont tombés. 13 noms, 13 familles, 13 destins.
Le chef de l'État a ensuite égrené, un par un, leur nom, leur parcours, le ton grave. S'il a esquissé leur héroïsme, il a surtout mis en avant leur engagement.
Vous étiez 13 soldats, 13 engagés volontaires. Engagés pour une idée de la France qui vaut d'être servie. Partout où il faut défendre la liberté des hommes et où la nation le décide. Un engagement profond, modeste et discret, qui n'est rendu public que par le sacrifice ultime.
Emmanuel Macron leur a ensuite remis la Légion d'honneur. Leurs noms, eux, seront inscrits demain à l'encre de pierre sur le monument aux morts pour la France en opérations extérieures.
Cyril Gradiani, merci à vous. Mise en examen, Sylvie Goulard, l'ex-ministre et candidate malheureuse à la Commission européenne. Elle est inculpée pour détournement de fonds publics. Le Modem, son parti, est soupçonné d'avoir organisé un système frauduleux pour payer des collaborateurs du mouvement avec des fonds normalement dédiés au travail au Parlement européen. Bercy mise à l'amende par la Cour des comptes. Dans un rapport rendu ce matin, les sages accusent les pouvoirs publics de ne pas lutter efficacement contre la fraude fiscale. Ils ne sont même pas capables d'évaluer le manque à gagner pour le fisc, dénonce la Cour. On y reviendra dans le journal de 19h. De l'argent manque dans les caisses des associations également. Les dons se tarissent cette fois à cause des réformes fiscales. Celle de l'ISF aura coûté près de 200 millions d'euros aux associations l'an dernier. Un chiffre du baromètre annuel du réseau Recherche et Solidarité. Et ce n'est peut-être pas fini. La réforme du mécénat est débattue en ce moment au Parlement. La déduction fiscale sur les dons des très grosses entreprises passerait de 60 à 40%. D'où la colère d'un collectif, les Pélicans, plus de 70 associations, dont la Croix-Rouge ou encore la Fondation des Femmes. Anne-Cécile Mayfair en est la porte-parole.
C'est moins 170 millions d'euros de dons des plus riches qui n'ont donc, après la réforme sur l'ISF, plus aucune incitation fiscale à faire des dons. Donc ils ont tout simplement arrêté de faire des dons. Donc nous, ce dont on a très peur, c'est que la baisse de l'encouragement à la générosité des entreprises va amener mathématiquement à une baisse de la générosité des entreprises. Or, les associations, celles qui en ont le plus besoin, ce sont les associations d'intérêt général qui sont sur des secteurs tels que la grande précarité, les sans-abri, les décrocheurs scolaires. Elles vont avoir moins de ressources financières et on est sur une baisse drastique sur ces dernières années, à la fois des subventions de l'État et de la générosité.
Anne-Cécile Mayfair de la Fondation des Femmes, elle répondait à Claire Chaudière. 8e jour de grève à Radio France pour protester contre le plan de 299 départs volontaires sur les 4800 postes de l'entreprise. L'antenne de votre radio est perturbée aujourd'hui encore et ce journal raccourci en raison de ce mouvement social.
Amélie Perrier, on se retrouvera tout à l'heure dans Un jour dans le monde pour Célé Radar. Et ce soir, nous sommes à l'ouverture de la COP25. C'est l'Afrique qui nous intéresse particulièrement. Et puis, tout à l'heure, au téléphone sonne en deuxième heure, forcément, cette grève du 5 décembre qui s'annonce très suivi, un gouvernement qui reste ferme. Vous avez peut-être entendu Bruno Le Maire ce matin sur l'antenne d'Inter. Un contexte social toujours éruptif. Et ceux qui travaillent, qui s'organisent, parlons-en ensemble, notamment avec les syndicats qui sont en pointe, ceux qui sont dans la rue, la CGT, ceux qui y sont moins, mais dont la vie est aussi entendue, c'est la CFDT. Ça se passe au 01 45 24 7000.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des poulets fermiers élevés en liberté. Loué, libre par nature.
Et Jean-Pierre Hameau, retour au calme dans le sud.
Oui, Fabienne, un temps sec et ensoleillé est prévu tout au long de la semaine dans le sud-est. En revanche, une dépression se met en place vers les Baléares et fera remonter des pluies soutenues mercredi, mais des Pyrénées-Orientales au Roussillon. En attendant, demain matin, avec le retour des hautes pressions, prévoyez beaucoup de grisailles sous forme de nuages bas et de bancs de brouillard dans la moitié nord du pays, excepté en Bretagne et vers la Bourgogne-Franche-Comté, où vous profiterez du soleil. Un soleil bien présent aussi dans la moitié sud. À noter une forte nébulosité entre Pays Basque et Languedoc-Roussillon tout au long de la journée. Et puis l'après-midi, l'ensoleillement sera généralement bon. La grisaille risque quand même de résister au nord de la Seine.
Et sinon, un mot sur les températures ?
Généralement froide en fin de nuit, avec des valeurs comprises entre moins 3 et 4 degrés. Comptez 9 vers la Côte d'Azur. Les maximales l'après-midi afficheront 4 à 17 degrés du nord au sud. Prévoyez 4 à Nancy, 6 à Lille, Dijon et Lyon, 7 dans la capitale, 8 à Bordeaux, 10 à Brest, 13 à Marseille et 17 à Nice.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci beaucoup.